Chez les anciens, les poissons apparaissent souvent comme les parents pauvres de l'étude des animaux. Ils sont moins faciles à observer que les animaux terrestres, ils sont moins admirés que les oiseaux, ils sont plus difficiles à distinguer entre eux que les petits animaux, les batraciens, les insectes ou les serpents, et ils forment globalement un ensemble de créatures assez confus vivant en milieu aquatique. Et jusqu'au XVIe siècle, le terme latin piscis recouvre à la fois les poissons, les crustacés, les mollusques, les céphalopodes et les cétacés. Un travail d'édition collectif, initié et dirigé par Catherine Jacquemart, sur une encyclopédie médiévale tardive qui s'appelle L'Hortus Sanitatis, portant plus particulièrement sur la partie consacrée aux créatures aquatiques, nous a donné l'occasion d'étudier le discours savant sur les poissons depuis l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen Âge. Nous vous présenterons d'abord ce qui s'écrit sur les poissons dans l'Antiquité, puis la manière dont ce discours a évolué au Moyen Âge. Et pour terminer, nous vous exposerons comment les connaissances se transmettent et de quelle manière le discours s'élabore de façon parfois quelque peu surprenante. Pour commencer, je vais vous parler de la partie antique. Et dès l'Antiquité se mettent en place trois types de discours sur les poissons. Il y a le discours purement scientifique, le discours médical et le discours allégorique. Le père du discours scientifique, puisque nous commençons par celui-là, c'est sans conteste Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, qui, en se fondant sur l'observation, a écrit trois ouvrages fondamentaux pour la connaissance de l'animal. La génération des animaux, le mouvement des animaux et surtout l'histoire des animaux. Cette œuvre est constituée de 9 livres dans lesquels Aristote s'attache à décrire tous les êtres vivants, leur anatomie, leur fonctionnement, leurs mœurs. Et on ne peut qu'être frappé par la rigueur des observations d'Aristote, leur précision et leur exactitude. Les animaux aquatiques se voient consacrer 30 chapitres par Aristote. Dans le livre 2, consacré à l'anatomie, ce sont les chapitres 9 et 10. Dans le livre 3, c'est le chapitre 8. Dans le livre 4, ce sont les chapitres 1 à 6, 10. Dans le livre 5, qui est consacré à la reproduction, c'est le chapitre 4, 6, 9, 10 et 13, 16. Dans le livre 6, les chapitres 10 à 16. Et enfin, dans les livres 8 et 9, qui parlent de la nourriture et de l'influence des saisons sur les poissons, ce sont les chapitres 3, 4, 17 et 20. Et chapitre 25, dans le dernier livre, le livre 9, sur l'intelligence des poissons. Aristote fournit donc sur les animaux marins, souvent difficiles à observer et mal connus, une quantité d'informations considérable. On peut juger de la qualité de cette œuvre au passage du livre 2 que je vous présente ici, consacré à leur anatomie. Aristote s'attache précisément à décrire, dans ce paragraphe, le système respiratoire des poissons, et particulièrement les branchies. Donc, je ne vais pas tout lire, notamment la deuxième partie qui est consacrée aussi aux ouïes, mais on peut lire le début. Quelques poissons allongés, comme la murène, n'ont pas de nageoires, non plus que de branchies articulées comme les autres poissons. Parmi ceux qui sont pourvus de branchies, les uns ont des branchies recouvertes d'opercules, mais les sélaciens n'en ont jamais. Ceux qui ont des opercules ont les branchies placées sur le côté. Entre les sélaciens, ceux qui sont larges ont les branchies en bas, dans le dessous du corps, comme la torpille et le bathos, c'est une sorte de raie. Les sélaciens qui sont très longs portent les branchies sur le côté, comme tous ceux qui sont du genre des chiens de mer. La grenouille marine, c'est la baudroie, les a sur le côté, mais les branchies sont recouvertes non d'un opercule de genre épineux, comme dans les poissons qui ne sont pas des sélaciens, mais par un opercule analogue à la peau. Dans les poissons qui ont des branchies, les uns les ont simples, chez les autres elles sont doubles, la dernière qui touche le corps est toujours simple, les uns ont peu de branchies, les autres en ont beaucoup, mais tous en ont un nombre égal de chaque côté. Le poisson qui en a le nombre moindre en a toujours une de chaque côté, et celle-là est double, comme chez le sanglier d'eau. Bien, je m'arrête ici pour les branchies. Il arrive cependant, Aristote n'ayant pas tout à fait tout découvert, que son discours soit entaché d'erreurs. C'est par exemple le cas dans ce passage sur la reproduction des anguilles. Les anguilles ne viennent pas d'un accouplement et elles n'ont pas d'œufs. On n'en a jamais pris une qui eut de la liqueur séminale ou qui eut un œuf. On n'en a jamais trouvé une qui, disséquée, présentât à l'intérieur les canaux du sperme ou ceux de la matrice. Mais parmi les animaux qui ont du sang, cette espèce tout entière ne prend naissance ni d'un accouplement ni d'un œuf. Ce qui prouve bien qu'il en est ainsi, c'est que dans les étangs bourbeux où l'on a mis toute l'eau à sec et d'où l'on a retiré toute la vase, les anguilles se reforment dès que tombe l'eau de pluie. Elles ne reparaissent pas dans les chaleurs, pas plus que dans les étangs qu'on ne vide point. Il n'y a que l'eau de pluie qui les fasse vivre et qui puisse les nourrir. Il est donc évident que ce ne sont ni l'accouplement ni des œufs qui les font naître. Il faut préciser, à la décharge d'Aristote, que le secret de la reproduction des anguilles n'a été découvert qu'au XIXe siècle et que sa remarque, notamment sur l'absence de canaux reproducteurs, est juste. Dans la littérature latine, maintenant, c'est Pline l'Ancien qui va incarner la figure du savant. Pline vit au 1er siècle après Jésus-Christ et il est l'auteur d'une histoire naturelle en 37 livres. Pline a l'ambition de réunir tout le savoir disponible à son époque. Et malgré le titre de son œuvre, Histoire naturelle, son œuvre ne se limite pas aux sciences naturelles puisqu'il va traiter aussi d'architecture, d'agriculture, de médecine et de bien d'autres domaines. Il va consacrer aux animaux les livres 7 à 11 de son livre et aux remèdes tirés des animaux les livres 28 à 32. Et pour ce qui concerne les poissons, il leur consacre le livre 9 pour ce qui est des mœurs et le livre 32 pour ce qui est des remèdes. Contrairement à Aristote, Pline ne travaille pas d'après l'observation directe et l'expérience. Il se définit lui-même comme compilateur et il s'appuie sur des sources multiples, notamment sur Aristote, qu'il reprend en général fidèlement. Je vous présente par exemple un passage de Pline consacré aux phoques. Et pour aller plus vite, pour éviter de vous montrer les deux textes, celui d'Aristote et de Pline, j'ai souligné dans le passage de Pline ce qui vient d'Aristote. Donc, vous voyez que ça fait beaucoup d'informations. Notamment le fait que ce dernier fait ses petits à terre et la mise bas est suivie d'un arrière-fait comme chez les quadrupèdes. Ensuite, la femelle met bas quelquefois plus de deux petits, elle les allaite, elle ne les mène pas à la mer avant le 12e jour. Après ce temps, elle les y habitue peu à peu. On les tue difficilement, si ce n'est en leur écrasant la tête. Leur cri est un mugissement d'où vient leur nom de veau. Ensuite, il reprend l'idée qu'aucun animal n'a un sommeil plus profond. Et enfin, leurs nageoires leur servent aussi en guise de pied à se traîner sur la terre. Donc, une grande partie des informations vient ici d'Aristote. Mais, si on regarde ce passage sur les anguilles, en comparaison à celui qu'on vient de voir chez Aristote, on voit que Pline, ici, a bien d'autres sources, et on a ici un discours totalement différent. Les anguilles vivent 8 ans, hors de l'eau elles résistent pendant 6 jours quand l'aquilon souffle, elles résistent moins quand c'est le vent du midi, elles ne supportent pas l'hiver si elles sont dans peu d'eau ou dans une eau trouble, aussi les pêche-t-on surtout vers l'époque des Pléiades, époque où les fleuves sont particulièrement troubles, elles cherchent leur nourriture pendant la nuit, leur cadavre est le seul cadavre de poisson qui ne surnage pas. Il y a en Italie, dans le territoire de Vérone, un lac appelé Benacus, que le Mincio traverse. Tous les ans, vers le mois d'octobre, le lac est troublé par la constellation d'automne et les anguilles agglomérées sont roulées par les flots à l'endroit où sort le fleuve en quantité si prodigieuse qu'on en trouve des boules d'un mille ensemble dans les pêcheries établies à cet effet dans le fleuve. Donc vous voyez ici que les observations de Pline sont plus centrées sur l'Italie, notamment puisqu'il nous parle du lac de Garde et du Mincio, et également que certaines observations sont justes. Par exemple, le fait que le cadavre de l'anguille ne flotte pas est avéré puisqu'elle n'a pas de vessie natatoire et que l'anguille est capable de survivre hors de l'eau est également quelque chose de tout à fait réel. En revanche, Pline a souvent tendance, bien qu'il soit un savant, à retenir pour son histoire naturelle tout ce qui a trait au merveilleux. Quelquefois une exagération fantastique, quelquefois une légende venue d'une mauvaise observation ou d'une mauvaise interprétation. Pour le rémora, qui a toujours fasciné les anciens par sa capacité à s'accrocher aux choses, aux navires ou aux animaux, ça devient chez Pline un poisson doué de pouvoirs extraordinaires. Donc, un des passages sur le rémora dans le livre 32... Cependant, toutes ces puissances, alors même qu'elles agissent dans le même sens, il s'agit des tempêtes... Un seul et très petit poisson, appelé Echeneis, c'est le rémora, suffit pour les contrebalancer. Que les vents soufflent, que les tempêtes se déchaînent, ils commandent à leur fureur, compriment ces agents formidables et forcent les navires à rester immobiles, les navires que ne retiendraient pas les câbles les plus gros, les ancres les plus pesantes. Ils mettent un frein à cette violence, ils domptent la rage des éléments, et cela sans aucun effort, sans tirer sur le bâtiment, sans rien faire d'autre que s'y attacher. Ô vanité humaine, ces proues garnies d'airain et de fer, afin de porter des coups redoutables, peuvent être enchaînées et retenues prisonnières par un chétif poisson d'un demi-pied. De notre temps, il retint le navire de l'empereur Caligula, qui revenait d'Astura à Antium. Il est certain que ce qui étonna le plus l'empereur, c'est que ce poisson, qui par son adhérence arrêtait le navire, n'eut plus le même pouvoir lorsqu'il fut dedans. D'après ceux qui le virent alors et ceux qui l'ont vu depuis, il ressemble à un grand limaçon. La postérité de Pline va être immense en Occident. il va constituer la référence absolue pendant toute l'Antiquité tardive et tout le Moyen-Âge, d'autant plus que ses écrits sont en latin, langue qui va être la langue des savants. L'œuvre d'Aristote va cesser d'être accessible pendant un temps, et Pline va s'imposer comme le savant complet, dont le discours va constituer l'alpha et l'oméga du savoir des animaux pendant une quinzaine de siècles. Je voudrais maintenant passer à un autre aspect du discours sur les poissons, qui est le discours médical. Et nous allons encore parler de Pline. L'histoire naturelle de Pline, comme je vous l'ai dit, consacre 4 livres à étudier les remèdes tirés des animaux. Mais ces remèdes ne sont pas forcément médicaux, il y a aussi des remèdes magiques et des remèdes de sorcellerie. Dans son livre 32, Pline commence par présenter les animaux dotés de caractéristiques extraordinaires, la baleine, le rémora, un certain nombre d'animaux. Puis il va changer d'organisation et pour être plus utile, il va organiser sa présentation en types de mots. Il va traiter d'abord les maux de tête, puis les maux d'yeux, les maux d'oreille et ainsi de suite. À côté de la pharmacopée végétale, il va mettre en place une pharmacopée animale, souvent très surprenante pour nous, mais qui a été recopiée des siècles durant par ses continuateurs. Un exemple de remède, des remèdes contre l'épilepsie tirés des poissons. Les épileptiques, comme nous l'avons dit, boivent de la présure de phoque. Donc la présure est une enzyme sécrétée par les estomacs des jeunes ruminants. Et le phoque étant le veau marin, il est classé dans les ruminants. Donc boivent de la présure de phoque avec du lait de jument ou d'ânesse, ou avec du sucre de grenade. Quelques-uns la prennent avec du vinaigre miellé, d'autres en font des pilules sans rien d'autre et les avalent. On donne encore le foie de la lotte et le sang de rat ou de tortue. Si ces remèdes sont un peu étonnants pour nous, ils relèvent cependant toujours de la médecine et on trouve ici des modes d'administration qui en témoignent. En revanche, très souvent, l'œuvre de Pline oscille entre médecine et magie et le savant ne fait pas la différence entre les deux domaines. Ainsi, si nous regardons des indications qu'il donne pour lutter contre la fièvre, on s'aperçoit qu'on passe du domaine de la médecine au domaine de la magie. On coupe les fièvres réglées en faisant manger du foie de dauphin avant l'accès. On fait mourir des hippocampes dans l'huile rosa avec laquelle on se frotte dans les fièvres froides. On les fait porter aussi en amulette aux malades. On fait porter de même dans un linge les petites pierres qu'on trouve dans la tête du poisson Azélus lors de la pleine lune. On attribue la même vertu à la plus longue dent du pagre de rivière, suspendue avec un cheveu, pourvu que le malade soit 5 jours sans voir celui qui aura attaché cette amulette. Pour guérir de la fièvre carte, on choisit un carrefour. Là, on fait bouillir dans de l'huile des grenouilles, on en jette les chairs et on frotte les malades avec cette décoction. Je vous fais grâce des conseils pour soigner les yeux qui pourraient vous donner des cauchemars et que vous ne réussirez pas à appliquer vraisemblablement, pour passer à un médecin grec, Dioscoride, à la même époque. Dioscoride, lui aussi, va recourir aux animaux pour soigner ses malades, mais il va ôter la partie magique. Il écrit un gros ouvrage qui s'intitule le De Materia Medica, en mélangeant les remèdes animaux, les remèdes végétaux, avec des indications de posologie et de préparation. On a parlé tout à l'heure de l'emploi de la présure de phoque chez Pline pour les épileptiques. Dioscoride reprend ce médicament, mais il explique comment le préparer. Parce que dès l'Antiquité, les remèdes tirés des animaux sont très trafiqués. Il faut faire attention à ce qu'on avale. La présure de phoque a des propriétés semblables à celles du castoreum. En boisson, elle est très utile aux épileptiques, mais elle est très efficace contre les suffocations de la matrice, c'est l'hystérie. Mais voici comment vérifier qu'il s'agit bien de présure de phoque. Prends de la présure d'agneau, mélange-la à l'eau et laisse-la se dissoudre pendant 1 heure. Ensuite, verse dans la même eau de la présure de phoque. Si celle-ci se dissout dans l'eau, ce n'est pas de la vraie présure de phoque, car celle-ci ne se dissout pas au contact de l'eau. De grands médecins, comme Galien ou Cels, se placent plutôt dans la lignée d'Hippocrate et abordent la médecine par le biais de la clinique et de l'anatomie, avec une pharmacopée plus végétale qu'animale. Mais la tradition plinienne sera suivie, par exemple, par le médecin Marcellus, qui vit à Bordeaux au IVe siècle et qui a laissé un gros livre très très longtemps utilisé qui s'appelle le De Medicamentis Liber. Donc, un passage ici du De Medicamentis où il se sert d'éléments venant des poissons. Le fiel du corbeau de mer, c'est le corassin ou le castagno, employé en liniment, fait disparaître l'obscurcissement des yeux, atténue les cicatrices, réduit les excroissances de chair et le larmoiement. le fiel du petit poisson, qui ressemble au cheval de mer, c'est l'hippocampe, mêlé à du blanc d'œuf et appliqué sur de la laine graisseuse, est de toute évidence un remède plus efficace que tous les autres si on l'applique sur les yeux, pour tous les maux décrits ci-dessus. L'os de seiche, lorsqu'il est tendre, broyé très finement et mêlé à du lait de femme, est d'une grande utilité dans tous les maux oculaires dont nous avons déjà parlé, si on l'utilise en liniment. Paul Dégine, quant à lui, qui est un médecin du 7e siècle, écrit un ouvrage d'hygiène et de diététique qu'il appelle Praecepta Salubria et qui sera utilisé jusqu'à la fin de la Renaissance. Et dans cet ouvrage, il examine différents types d'activités humaines, comment il faut les pratiquer pour rester en bonne santé, et différents types d'aliments. Il consacre 5 chapitres aux poissons, des chapitres 90 à 95, et je vous présente ici le chapitre 90 qui est le premier. Vous allez voir que le discours change complètement. Il est bien établi que tous les poissons sont de nature froide et humide, mais ceux qu'on appelle saxatiles, donc qui vivent dans les milieux rocheux, sont meilleurs que les autres. En effet, ils sont faciles à digérer, leur jus est bienfaisant, et si leur chair n'est pas trop dure, ils n'apportent que peu d'humidité. Parmi ceux qui ne sont pas saxatiles, les poissons qui vivent dans la mer sont très différents de ceux qui se nourrissent dans la vase ou à l'embouchure des fleuves. Mais les plus mauvais de tous sont ceux qui habitent les marais ou les étangs. En particulier, le chabot, s'il vit en mer, est assez agréable de goût, mais ne produit chez ceux qui s'en nourrissent qu'un sang peu abondant et sans vigueur. Le loup a un effet très différent de lui, mais on trouve aussi parmi les poissons le surmulet, à la fois plus ferme et plus friable que les autres poissons, facile à digérer, idéal pour les repas, très agréable au goût et pauvre en graisse. Pour terminer cette partie sur l'Antiquité, je vais vous présenter rapidement le discours allégorique. À l'origine du discours allégorique se trouve un livre qui s'appelle le Physiologos ou Naturaliste, qui compte dans ses premières versions une cinquantaine de courts chapitres, un par animal, et qui a été rédigé en Égypte, en grec, au second siècle. L'origine géographique du Physiologos fait qu'on y trouve beaucoup d'animaux exotiques, comme le lion, la panthère et le crocodile, et très peu de poissons. Ce livre a été traduit en latin au IVe siècle, puis complété notamment par des emprunts à Isidore de Séville et aux Hexaméra rédigés par les pères de l'Église. Dans sa version grecque, le Physiologos n'avait que deux animaux liés à l'eau, l'aspic-tortue, qui est un animal fabuleux, et le crocodile. Dans une version plus tardive, s'ajoutera le cheval d'eau, un autre animal fabuleux. Dans le Physiologos latin Y, qui comporte 44 chapitres, il y a 5 animaux qui peuvent être rattachés à l'élément aquatique. La cerf, qui est un animal fabuleux, l'huître perléaire et sa perle, le kétous, qui est donc la baleine, le nilwous, qui est l'hydre, et la rana, la grenouille. Chaque texte du Physiologos associe un trait particulier de l'animal et une interprétation allégorique liée à l'écriture. Par exemple, la présentation de l'hydre. Il existe un animal qu'on appelle Nilwous, l'hydre. Il vit dans le fleuve, possède un visage de chien. C'est l'ennemi du crocodile. S'il voit le crocodile en train de dormir avec la gueule ouverte, le Nilwous s'approche et se couvre de boue. Et quand la boue est sèche, il se glisse dans la gueule du crocodile et sort tous les intestins et les entrailles de celui-ci. On peut y voir l'image de l'enfer, qui s'empare de toutes les âmes et les fait mourir. Mais notre Sauveur céleste, en s'incarnant, est descendu dans l'enfer et en a fait sortir ceux qui étaient morts, selon la promesse sainte, pour faire disparaître le hasard et l'aiguillon de la mort. Donc, on se sert ici de la description d'un trait d'un animal pour montrer que la nature a illustré, en fait, tout le discours biblique à travers la nature de ces animaux. Si l'on passe maintenant au père de l'Église, Basile de Césarée et Ambroise de Milan, ce sont deux auteurs du IVe siècle qui ont tous deux rédigé un texte appelé Hexaméron, c'est-à-dire littéralement les 6 jours. Et dans ces textes, ils décrivent la création du monde, et c'est un prétexte à décrire le monde entier, tout ce qu'on sait sur l'univers. Ces textes donnent l'occasion de louer Dieu, soit pour l'infinie variété du monde créé, soit pour ses aspects merveilleux, soit pour sa perfection. Vous vous souvenez que les oiseaux et les poissons sont créés le 5e jour, et c'est donc dans le chapitre du 5e jour que Basile et Ambroise décrivent les animaux marins. Par exemple, Ambroise décrit la grande nacre. Cette grande nacre avait été surnommée par les anciens la toison d'or à cause de sa texture et de la richesse qu'elle représentait. Elle permettait de tisser les plus fins des ornements vestimentaires. L'eau abrite aussi la toison d'or et les rivages produisent un voile dont l'aspect rappelle ce métal. Aucun de ceux qui teignent la laine de diverses teintes n'est encore capable d'imiter la couleur de ce voile, tant l'industrie humaine est inapte à reproduire les beautés qu'a déployées la nature dans la mer. Ambroise veut aussi montrer la perfection du projet divin dans le comportement des poissons. Et il compare, dans une même envolée, ceux qui migrent dans le pont d'Euxin pour frayer et ceux qui arrêtent les navires malgré leur petite taille. Vous reconnaîtrez notre rémora. Qui osera donc affirmer qu'une telle intelligence, un tel courage ne leur viennent pas de Dieu, quand on voit les uns entreprendre vers le nord avec une grande intelligence une migration si régulière pour se reproduire, les autres posséder dans un tout petit corps une force telle qu'ils arrêtent en pleine mer les immenses navires qui voguent à pleine voile. Basile ne passe pas sous silence le fait que la création n'est pas parfaite, car certains animaux sont perfides. C'est le cas du poulpe, qui est l'image de la dissimulation. Point ne voudrais-je passer sous silence la ruse et la dissimulation du polype. À quelque roche que celui-ci s'attache, il en prend la couleur. Aussi, maints poissons qui nagent sans précaution viennent-ils se heurter au polype comme à une roche et deviennent-ils pour le fourbe une proie toute préparée. Mais de manière générale, Ambroise comme Basile reconnaissent que la mer n'a pas les défauts de la terre et que, si le lion et le loup terrestre sont redoutables, le loup et le lion marin sont des animaux de pure gentillesse. Ainsi, dans le chapitre comparé au loup terrestre, à quoi bon rappeler la douceur de ces corbeaux, de ces loups? L'agneau n'a pas besoin d'apprendre à craindre ces loups-là. La douceur des eaux, ce monde où les lions même fuient les veaux, est telle que la parole du prophète sur la sainteté de l'Église convient parfaitement. Alors les loups et les agneaux paîtront ensemble, le lion et le bœuf mangeront tous deux du fourrage. Je passe la parole à ma collègue Marie-Agnès, qui va désormais vous parler de la tradition médiévale.
Voilà, alors je vais vous parler, parler maintenant de la tradition médiévale, en commençant par Isidore de Séville, au sujet duquel on peut discuter, en fait, hein, Isidore de Séville vécu au 6e, 7e siècle, on peut discuter de savoir si Isidore doit être placé parmi les auteurs de l'Antiquité ou parmi ceux du Moyen-Âge. Disons en tous les cas qu'il fut un passeur du savoir antique à l'époque médiévale et qu'après Augustin et Cassiodore, il contribua au développement de l'étude du savoir profane et des arts libéraux. Cependant, il comprit très vite les limites des sept disciplines fondamentales et il montra l'intérêt de l'étude de la médecine, par exemple, qui nécessitait celle des divers champs des sciences naturelles, la botanique, la zoologie, la minéralogie. Son œuvre, intitulée « Les étymologies », est constituée de 20 livres et 448 chapitres. Il est ainsi le premier à rédiger une œuvre aussi volumineuse en adoptant une démarche vraiment encyclopédique. Chaque livre, en effet, traite d'un domaine différent, d'une manière aussi exhaustive que possible. Pour transmettre à ses lecteurs le savoir des anciens, Isidore se fonde sur l'étymologie. Il établit une correspondance entre le mot et la chose, car il est convaincu que le mot est le moyen essentiel d'appréhender la réalité. C'est l'envers de l'arbitraire du signe dont parlait Fabrice tout à l'heure. Son œuvre au carrefour de la science, de l'exégèse, de la médecine et de la linguistique est donc un immense recueil de citations d'auteurs antiques et il a fourni aux savants du Moyen-Âge une source incomparable de renseignements. Dans le livre 12, « Les poissons et animaux marins » occupe le chapitre 6. Voyons tout d'abord comment Isidore expose sa démarche. Ah oui, alors je n'ai pas cette diapo-là sur le diaporama, je vais vous lire le texte donc, au tout début du chapitre 6. Les hommes ont nommé les bestiaux, les bêtes sauvages et les oiseaux avant les poissons parce qu'ils les ont vus et connus d'abord. Plus tard, quand on connut peu à peu les espèces de poissons, on leur donna des noms, soit d'après leur ressemblance avec des animaux terrestres, soit d'après leur aspect particulier ou leurs mœurs, ou d'après la couleur, la forme ou le sexe. D'après la ressemblance avec les animaux terrestres, la rana marina, qui est la grenouille marine, c'est-à-dire la baudroie, le veau, qui est le phoque, le lion, qui est l'otarie. D'après les mœurs des animaux terrestres, les chiens de mer, qui sont les squales, nommés d'après les chiens terrestres, parce qu'ils mordent. D'après la couleur, les ombrines, en latin umbrae, parce que leur couleur est ombrée. Les dorades, en latin auratae, parce qu'elles ont de l'or sur la tête. Mais Isidore va souvent plus loin que l'étymologie, et complète sa notice avec des renseignements qu'il emprunte parfois à Solin, qui les avait lui-même reçus de Pline, soit à Pline lui-même. C'est le cas pour l'anguille. L'anguilla, l'anguille, tire son nom de sa ressemblance avec le serpent anguis. C'est la vase qui l'a produit. Pour cette raison, elle est si visqueuse que quand on l'attrape, plus on la serre fort, plus elle glisse rapidement d'entre les mains. On rapporte que le Gange, un fleuve d'Orient, donne naissance à des anguilles de 30 pieds. Ceux qui ont bu du vin dans lequel on a noyé une anguille ont le dégoût du vin. Et là, je vous ai mis, vous voyez, en bas de la diapo, donc les notes d'André, hein, qui est l'éditeur donc, de ces livres des étymologies d'Isidore, et qui indique quels sont les emprunts à Solin ou à Pline. Le Moyen-Âge est une période d'approfondissement et de synthèse des trois types de discours qui viennent de vous être présentés. Si l'on suit l'ordre chronologique, on peut évoquer en premier lieu le discours médical. Au Xe siècle, la médecine connaît un développement extraordinaire avec les médecins arabes. S'appuyant sur les grands textes de la médecine grecque et sur leurs propres pratiques, ils rédigent des sommes aussi imposantes qu'importantes, qui, une fois traduites, vont permettre à la médecine occidentale un renouvellement et des progrès considérables. Parmi les savants médecins arabes, je ne mentionnerai qu'Avicenne, auteur du Canon, œuvre constituée de 4 livres. Les animaux marins apparaissent par exemple dans le livre 2. Le livre 2 qui donne le nom et les propriétés thérapeutiques de tous les médicaments classés dans l'ordre alphabétique. Voilà donc un extrait de ce livre 2 qui traite du lièvre de mer qui est l'aplysie. Et vous voyez comment donc il organise ses notices, hein, nature, ornement, organes et poisons. Le lièvre marin est un animal écailleux, boueux, tirant quelque peu sur le rouge. Son sang est chaud, il a des propriétés détergentes, sa tête brûlée fait repousser les cheveux sur les alopécies, surtout avec de la graisse d'ours. Elle est très utile aussi pour la lèpre. Lorsqu'on en fait un emplâtre pour le malade et qu'on l'applique comme il a une vertu dépilatoire. Utilisé en emplâtre sur les yeux, il ôte la vue. On le compte parmi les poisons car il provoque la mort en causant l'ulcération des poumons. Bien que dans l'Occident médiéval, l'étude du savoir profane n'ait d'autre but que celui du milieu, que celui de mieux comprendre les Écritures, le discours savant sur les choses de la nature et les poissons est encore dominé par celui qui fut tenu dans l'Antiquité. La tradition de l'autorité reste très forte, et ce que les anciens ont écrit, dans l'Occident donc médiéval, apparaît comme une vérité incontestable. Cette tendance est générale et l'on peut l'observer dans les divers champs du savoir, mais elle se vérifie particulièrement pour ce qui concerne les poissons. En l'absence d'Aristote, Pline et Isidore, qui constituent les deux grands monuments du savoir sur l'animal jusqu'au XIIe siècle, vont être abondamment compilés. Il est une œuvre cependant qui connut un immense succès au XIIe siècle, quand bien même à la même période, les traités zoologiques d'Aristote refont surface en Occident. Il s'agit du Physiologus qui inspire la rédaction des bestiaires. Ces bestiaires apparaissent donc au XIIe et XIIIe siècle et sont aussi appelés livres des natures des animaux. Ce sont à la fois des manuels très sommaires d'histoire naturelle, dans la mesure où ils prétendent décrire le monde connu, et surtout des abrégés de doctrines chrétiennes illustrées, visant à enseigner une morale simple. Comme le dit Daniel James Raoul, les bestiaires médiévaux sont ainsi investis d'une valeur allégorique ou symbolique, voire morale, beaucoup plus qu'ils ne véhiculent un savoir scientifique. Destinés à leur apparition au XIIe siècle à un public aristocratique, ils connaissent vite un immense succès auprès des clercs également. Les animaux se succèdent dans un ordre approximatif qui est fonction d'une hiérarchie. C'est par exemple toujours le lion qui ouvre les bestiaires. Les chapitres des bestiaires sont composés comme ceux du Physiologus, nature, citation, interprétation, et parfois viennent s'y ajouter un commentaire étymologique tiré d'Isidore de Séville, et aussi une illustration. En fait, les poissons sont vraiment les parents pauvres des bestiaires. Ils sont presque absents des bestiaires français. On n'y retrouve que les poissons énumérés dans le Physiologus, dont ils constituent une prolongation. Les bestiaires latins, en revanche, s'appuyant sur Pline ou Isidore, décrivent un nombre bien plus important de poissons. Cependant, les illustrateurs les ont laissés de côté. Ils n'apparaissent que dans une image représentant les créatures du cinquième jour. Sans doute, la rareté en fait, des représentations des poissons dans les bestiaires s'explique-t-elle par la très mauvaise connaissance qu'on a d'eux et de leurs mœurs. Il reste difficile à doter de traits de caractère distinctifs et plus encore à illustrer, à l'exception de quelques poissons bibliques, comme le monstre de la Bible qui avala Jonas. La rédaction des bestiaires coïncide par ailleurs avec une période d'une intense activité intellectuelle, marquée par le développement d'une véritable démarche encyclopédique visant à réunir la totalité du savoir et à le classer. Ce qu'on appelle communément les encyclopédies médiévales apparaissent à la fin du XIIe siècle, et l'on considère généralement le XIIIe comme celui de leur apogée. Les encyclopédies médiévales sont rédigées par des membres des ordres mendiants qui enseignent tous dans leur ordre respectif et qui profitent des connaissances nouvelles apportées par les traductions d'Aristote. Plusieurs savants, Michel Scott à partir des traductions arabes en 1220, Guillaume de Morbecque à partir du grec en 1260, permettent à l'Occident de découvrir toute une partie de l'œuvre aristotélicienne, notamment les textes sur les animaux. Les auteurs de ces sommes cherchent à présenter l'ensemble du savoir, afin que celui-ci puisse être mis à la disposition de tous les monastères, notamment ceux qui ne disposent pas de riches bibliothèques. Mais l'ambition des encyclopédistes va bien au-delà de cet objectif pragmatique. Et l'esprit qui préside à l'élaboration des encyclopédies est très différent de celui qui gouvernait la rédaction des bestiaires. Certes, fidèle à l'enseignement d'Augustin, il montre que le savoir et l'étude sont des voies vers le salut et que le but de la connaissance est la compréhension des Écritures. Mais on voit en même temps émerger la volonté d'offrir une explication des res naturales, de construire un miroir du monde qui soit le reflet de la volonté divine et de l'ensemble de connaissances scientifiques disponibles. Les encyclopédies veulent embrasser dans leur totalité ces connaissances qu'ils puisent à la fois auprès des anciens, comme Pline, Isidore, Sénèque, et dans les autres sources récentes aussi, ou récemment découvertes, comme les œuvres d'Aristote portant sur les animaux, ou celles des médecins arabes. Cette ambition s'affiche clairement dans les titres des encyclopédies, De Naturis Rerum, De Natura Rerum, De Proprietatibus Rerum, ou Speculum Naturale. Enfin, les encyclopédies cherchent pour la première fois à ordonner ces connaissances en un système hiérarchisé, conforme à l'organisation du monde et à la cohérence du projet divin. Cette intention, extrêmement difficile à mettre en œuvre, explique les différences de démarche qu'on constate d'une encyclopédie à l'autre. Alexandre Neckam organise sa description selon les quatre éléments, et Vincent de Beauvais en suivant l'ordre de la création du monde exposé dans la Genèse. Barthélemy Langlais choisit un ordre descendant, de Dieu et du ciel au monde, en passant par l'homme, tandis que Thomas de Quantimpré suit une démarche ascendante qui part de l'homme pour aboutir au ciel. Deux types d'ouvrages vont alors se développer selon que leurs auteurs privilégient le discours exégétique et allégorique ou le discours scientifique. La prise en compte des traités d'Aristote, et en particulier pour le sujet qui nous occupe de l'histoire des animaux, permet aux premiers encyclopédistes, c'est-à-dire ceux qui vont donc développer le discours exégétique et allégorique, permet à ces premiers encyclopédistes de renouveler les discours sur l'animal et de l'amplifier considérablement, notamment en ce qui concerne les poissons. Dans les premiers temps de l'encyclopédisme médiéval, la description des animaux ne peut encore être séparée de l'interprétation allégorique qu'il convient d'en tirer. Soucieux de procurer aux moines des petits monastères un ouvrage de référence qui permette de connaître tout l'univers, les auteurs cherchent en même temps à fournir donc aux prédicateurs de leur ordre une immense série d'exemples destinés à nourrir et à illustrer leurs sermons. Ainsi, tous les chapitres comportent un ou plusieurs commentaires allégoriques qui succèdent à chaque aspect de la nature de l'animal et qui commencent systématiquement par « significat » ou « significant ». Ce commentaire est souvent plus développé que la nature elle-même et est complété par une ou plusieurs citations tirées des Écritures. Ainsi, dans le De Naturis Rerum d'Alexandre Neckam, composé fin XIIe, début XIIIe siècle, le prologue annonce clairement la portée moralisante de l'œuvre, dont la teneur réapparaît souvent dans le commentaire qui suit la brève description des animaux et qui est introduit par les formules sicet ou sic-sic. Voyons par exemple ce qu'il écrit de la torpille. Selon Aristote, la torpille possède une puissance telle qu'elle paralyse et rend insensible la main du pêcheur par l'intermédiaire de la ligne et de la canne à pêche. Et elle paralyse même son corps tout entier s'il ne lâche pas immédiatement sa canne. C'est pour cette raison qu'on la classe parmi les narcotiques à effet paralysant, comme le pavot et d'autres produits de ce genre. Ainsi, si tu te laisses attirer par quelques vices, surtout par la luxure, la masturbation et l'ensemble des plaisirs que procure le corps te feront perdre ta vigilance. Thomas de Quantimpré, quant à lui, malgré le caractère profondément novateur de son œuvre, cède encore à la tentation allégorique. On peut voir comment il interprète un trait d'habileté fréquemment prêté au silure. Le silure. À ce que dit Pline, le silure, qu'on appelle aussi glanis, mord à l'envers les hameçons pourvus d'un appât, et ne les avale pas, mais vole l'appât sur l'hameçon. Ce poisson est l'image de ceux qui, même s'ils semblent fuir le vice de la fornication, afin de n'être pas dénoncés par les enfants qui pourraient naître, se déshonorent cependant par tout ce qui s'y associe, comme les baisers, les entretiens illicites et les caresses infâmes. Certains encyclopédistes, comme le franciscain Marcus d'Orvieto, Ce livre tend encore à des développements allégoriques à la fin du XIIIe siècle. Et son De proprietatibus rerum est un recueil d'exemplats moraux à ambition encyclopédique. Je ne vais pas vous lire ce texte, mais il y a encore ici un exemple, donc à la fin du XIIIe siècle. Contrairement à Alexandre Nécam et à Thomas de Quentin-Pré, qui composent leur ouvrage avant la redécouverte d'Aristote, c'est le cas pour Alexandre Nécam, ou juste après, c'est le cas donc pour Thomas de Quentin-Pré, avec une démarche qui laisse encore une large place au discours allégorique, Marcus d'Orvieto, à la fin du XIIIe, va à contre-courant, en quelque sorte, de cette tendance qui l'emporte dans les grandes encyclopédies composées au milieu du XIIIe siècle et qui consiste à réduire considérablement, voire à supprimer totalement, ce type de discours au bénéfice du seul discours scientifique. Dans les premières encyclopédies de ce type, qui datent du début du XIIIe, le savoir concernant les poissons reste à la fois très succinct et très pauvre, comme on peut le voir chez Arnold de Saxe. Je vais aller assez vite aussi sur cette citation, juste pour vous montrer, le poisson à bas RN se reproduit quand le vent souffle depuis le rivage, hein, voilà. Et il existe un poisson qu'on appelle foustaré qui ne se reproduit pas par copulation mais né de la base. Hein, et pourtant cette information est inspirée d'Aristote. Chez Barthélemy Langlais, dont le De proprietatibus rerum constitue l'une des premières grandes encyclopédies, les poissons, contrairement aux quadrupèdes et aux oiseaux, n'ont pas encore droit à leur propre livre, car ils ne constituent qu'un ornement des eaux, et en tant que tels, ils sont relégués à la fin du livre 12 que Barthélemy consacre au domaine aquatique. Il n'y a pas de catalogue alphabétique, mais un exposé de généralité qui passe en revue plusieurs thèmes, le mouvement, l'habitat, la saveur, la reproduction, l'alimentation, et au cours duquel Barthélemy cite une vingtaine de noms de poissons. On peut se faire une idée de l'encyclopédie de Barthélemy Langlais avec ce petit passage sur la nourriture des poissons. Certains poissons se nourrissent d'ordures et de fange, comme le crabe, ce qui fait qu'il est gros et qu'on trouve en lui beaucoup de fange. Mais les poissons qui chassent les autres ont des dents plus solides, comme le poisson que les Grecs appellent phagine, du grec phagein qui veut dire manger. Isidore écrit qu'il a des dents si dures qu'il mange des huîtres dans la mer. Et le poisson qu'on appelle Dentrix tire aussi son nom de la taille et de la puissance de ses dents. Mais certains poissons, comme il est dit dans l'Hexaméron, ont des dents plus petites mais plus nombreuses, plus serrées et plus pointues, qui leur permet de lacérer aussitôt les proies qu'ils attrapent. Un effort de synthèse total est réalisé par Vincent de Beauvais. Ce dernier, s'appuyant beaucoup sur l'œuvre de Thomas, entreprend avec son Speculum Maius l'encyclopédie la plus ambitieuse et la plus volumineuse du Moyen-Âge. Composée aux alentours de 1250, elle se divise en trois specula. Le Speculum Naturale qui nous occupe ici est le premier. Il comporte à lui seul 32 livres et 3708 chapitres, organisés en fonction des 6 jours de la création. Les oiseaux sont donc traités, juste avant les poissons, dans les livres 16 et 17, qui décrivent l'œuvre du cinquième jour. Vincent essaie de respecter la volonté dominicaine de donner tout l'accès au savoir. Il cite dans leur intégralité les textes qu'il compile, même si les informations se reprennent ou se répètent, sans opérer aucun tri. Il décrit les mêmes poissons que Thomas, environ 150 animaux. Mais les informations concernant les animaux s'accumulent. Vincent supprime tout commentaire exégétique, mais introduit à la place des informations médicales venant de Pline et Aristote, mais aussi des sources nouvelles que constituent Dioscoride, Platéarius, Constantin l'Africain, Ali, Razi ou encore Avicenne. Enfin, on trouve pour la première fois de brèves intrusions de l'auteur sous le marqueur Auctor. Ces intrusions sont soit destinées à apporter une précision, soit à faire une transition ou une brève présentation, soit parfois même aussi à introduire une information qui ne semble pas d'origine livresque. Le chapitre consacré au gardon, à l'espadon et au requin fournit un exemple de l'effort d'exhaustivité de Vincent dans les domaines abordés comme dans les sources. Et vous voyez, pour ce qui est, donc, dans ce chapitre 55, trois animaux sont décrits, mais pour ce qui est du gardous, qui est probablement le gardon, seul Vincent de Beauvais donne une information. Vincent de Beauvais, donc, c'est ce qui apparaît sur le marqueur Auctor, qu'on traduit par l'auteur. Le gardeau est un poisson de rivière dont la chair est exquise. Il ressemble à la vandoise, mais s'en distingue par ses yeux, qui sont de couleur rouge. L'un et l'autre, cependant, sont de petite taille. Il donne ensuite un fragment de l'œuvre d'Isidore pour parler du gladius. Alors, pour ce qui est du gladius, il y a une difficulté, parce qu'en fait, un même nom désigne deux poissons très différents, l'espadon dans un premier temps, et ensuite l'œstre du thon. Le gladius, espadon, tire son nom du fait qu'il possède un rostre pointu, grâce auquel il fait sombrer les navires dont il a percé la coque. Un fragment ensuite d'Aristote, le Astarios ou Astaros, c'est-à-dire le gladius marinus, l'œstre du thon cette fois-ci, ressemble au scorpion et il a la taille d'une araignée. Il inflige au poisson une douleur vive, et c'est pour cette raison qu'il saute souvent. En effet, c'est la douleur qui fait bondir le dauphin, parce qu'il est piqué sous la nageoire par le dard de cet animal qu'on appelle gladius. Encore une citation ensuite de Pline. Il existe un petit animal qui ressemble au scorpion et qui a la taille d'une araignée. Avec son aiguillon, il se fixe sous la nageoire du thon et du poisson appelé gladius, qui est cette fois l'espadon. L'espadon, donc, qui dépasse le dauphin d'une tête. Et il leur inflige une douleur si grande qu'ils sautent fréquemment dans les navires. Enfin, après Vincent, le dernier stade est atteint par Albert le Grand et son De Animalibus, achevé en 1270. On constate d'emblée qu'un degré supplémentaire est franchi dans la spécialisation du savoir. Albert renonce à l'illusion de tout dire sur l'univers entier et entreprend la première encyclopédie spécialisée avec son De Animalibus. Cette énorme somme comporte 26 livres, dont pour la première fois, la totalité est consacrée aux animaux. Les 19 premiers livres sont des commentaires de l'œuvre d'Aristote. Les 6 derniers sont consacrés à différentes catégories animales, selon une classification inspirée de Pline. Les animaux qui marchent, qui volent, qui nagent, les petits animaux, les animaux qui rampent. Les animaux qui nagent sont regroupés en 139 notices. À l'intérieur des 5 derniers livres, Albert procède par chapitre classé selon un ordre alphabétique rigoureux. Comme chez Vincent de Beauvais, le discours est strictement profane. On ne trouve aucune trace de commentaire théologique, et même le premier chapitre ne comporte aucune mention d'une perspective allégorique. Par ailleurs, Albert, contrairement à ses prédécesseurs, ne se contente pas de compiler les informations reçues. Ayant assimilé l'enseignement d'Aristote, il lui arrive parfois de contester ses sources, et il introduit, face au discours livresque, des observations qu'il dit personnelles ou récoltées auprès des pêcheurs. Un passage tiré du chapitre 23, La baleine, permet de voir les inflexions nouvelles que connaît le discours sur l'animal. Je vous ai mis en gras ici, vous voyez, la manière dont il renouvelle en fait le discours des anciens. Les anciens écrivent que ce poisson reposant sur le ventre occupe 4 jugères de terre, ce que n'a pu nous certifier aucun des pêcheurs qui en ont pourtant vu beaucoup et souvent. Mais ce que nous avons pu vérifier par nous-mêmes, c'est que, quand une baleine est débitée, il faut plus de 300 chariots pour en transporter la chair et les os. À mon époque, on en a capturé plusieurs, dont une en Frise, près d'un lieu nommé Storia. Par une ouverture faite au niveau de l'œil, on en a retiré 11 bobones de graisse, si grosses qu'un homme pouvait à peine en porter une. J'ai vu de mes yeux la graisse et les bonbonnes. Cette graisse, une fois filtrée, est très blanche et pure. Et il conclut... Voilà ce que nous avons découvert nous-mêmes sur la nature des baleines, et nous passons sous silence ce qu'écrivent les anciens, parce que cela ne concorde pas avec ce que nous avons découvert. Encore quelques minutes pour vous parler en fait des illustrations. Et là, je reviens au bestiaire. Alors, ces illustrations, en fait, elles vont avoir, notamment donc, dans le livre sur les bestiaires, un rôle esthétique, un rôle fondamentalement esthétique. Ces illustrations n'étaient sans doute pas pour déplaire aux différents publics auxquels ces bestiaires étaient destinés. Mais elles constituent aussi probablement un support pour la compréhension ou la mémorisation. Alors ça, c'est donc la troisième illustration des bestiaires dont je vous avais parlé tout à l'heure sans vous la montrer. Vous voyez, juste au-dessus de l'illustration, on a Incipit d'Episcibus, et cette illustration, en fait, sert à présenter l'ensemble des animaux qui vont être ensuite décrits. Alors, il s'agit probablement dans cette illustration, en fait, surtout de montrer la multitude des créatures divines, comme c'est annoncé dans la Genèse. On ne pourra pas les compter, de toute façon. Il s'agit d'en montrer la multitude, mais aussi la diversité. On peut reconnaître, cependant, probablement, l'Equus marinus, le Draco maris, le petit dragon en bas à droite, peut-être le Cervus maris, le cerf de mer, qui est décrit aussi chez Thomas de Quentin-Pré. Et puis probablement aussi dans une position verticale, la murène et au-dessus, tout en haut, l'anguille. Certaines illustrations apparaissent aussi dans les encyclopédies et dans celle de Thomas de Quentin-Pré. Ici, je vous présente 3 images tirées d'un manuscrit de Valenciennes qui présente l'œuvre de Thomas. Vous avez en haut et en bas à gauche donc la représentation d'une part de l'Elcus et d'autre part du Phoca, qui sont en fait 2 désignations d'un même animal qui est le phoque. Mais il n'est pas sûr que les anciens et que les hommes du Moyen-Âge aient bien compris qu'il s'agissait du même animal. Vous voyez que la représentation est quand même différente, même si il s'agit en fait de deux animaux qui sont aussi considérés comme des veaux de mer, hein, d'où leur proximité aussi dans la représentation. Je vous ai mis aussi la Galata, je vous en reparlerai tout à l'heure. Il s'agit en fait d'un animal au sujet duquel on indique que c'est un animal vivipare, hein, donc qui peut mettre, qui met bas souvent deux animaux en même temps, et qui a la capacité de faire rentrer l'animal, de faire rentrer le petit dans son ventre si la mère constate qu'en fait le petit n'était pas arrivé à maturité. Hein. Et donc vous voyez ici, on voit le museau de l'animal qui repousse l'animal dans son ventre, qui repousse le petit dans son ventre. Le tournant en fait s'amorce véritablement avec les débuts de l'imprimerie. En 1485 est publié à Mayence sur les presses de Peter Schoeffer une encyclopédie consacrée aux plantes attribuée à Jean de Cuba. Cette encyclopédie est rédigée en allemand. C'est en fait un traité de simple qui s'appelle le Garten der Gesundheit, qui signifie le jardin de santé. Je vous ai mis ici deux représentations. En fait, ce jardin des saints présente quelques animaux, très peu, mais quelques-uns, qui vont être pris dans une autre encyclopédie qui va sortir quelques années après, en 1485, qui s'appelle l'Artus Sanitatis. C'est l'œuvre sur laquelle donc nous travaillons surtout. Donc ici, vous avez une reproduction du canker, c'est-à-dire probablement la langouste, et puis des saints qui sont théoriquement, d'après la description qui nous en est donnée, qui sont des petits crocodiles. En fait, dans le Garten der Gesundheit, on a systématiquement une représentation donc de ce qui va être plutôt une plante, puis une description. La représentation a véritablement, à partir donc des débuts de l'imprimerie, une fonction d'information. Il s'agit, comme il est indiqué dans le prologue, de représenter fidèlement ce qui va être ensuite décrit. Et grâce à l'imprimerie, en fait, puisqu'on va pouvoir reproduire à l'identique une centaine de fois ou des milliers de fois une même image, c'est à partir de ce moment-là, véritablement, que l'image peut avoir une vertu informative. Donc, 6 ans plus tard, en 1491, paraît toujours à Mayence un ouvrage plus vaste sur la nature, publié en latin. C'est notre, si je puis dire, notre Hortus Sanitatis, hein, donc le jardin de santé aussi, qui est peut-être du même auteur que le Garten der Gesundheit et qui a été composé aussi comme une compilation. Il s'agit en fait de la compilation de 3 encyclopédies essentiellement, les Pandectes de Matthieu Sylvaticus, mais surtout le Speculum Naturale de Vincent de Beauvais et le De Animalibus d'Albert le Grand. Alors, l'auteur de l'Hortus Sanitatis, en fait, ne dit pas qu'il emprunte, ou quasiment pas qu'il a emprunté essentiellement ses informations à Vincent de Beauvais. Hein. Il présente les fragments de citations qu'il a tirés de Vincent, faisant comme si, en fait, il avait lu lui-même les savants compilés par Vincent de Beauvais. Donc ici, je vous ai donné 2 illustrations qui sont, en fait, pour vous montrer que les bois gravés qui avaient été utilisés dans l'Hortus Sanitatis ont été sinon repris, en fait ceux de là probablement ont été repris à l'édition de Gruninger du Garte, mais en fait il s'agit surtout d'une même méthode de travail. Pour tous les autres animaux, en fait, il a fallu faire des nouveaux bois gravés, puisque le Garte était essentiellement un traité de simple. Alors, je vous ai mis ici à gauche encore sur la partie gauche, une illustration qui reprend les 3 animaux montrés tout à l'heure pour Thomas de Quentin-Pré, c'est-à-dire donc l'Elcus, le Phoca et enfin la Galata. Et vous voyez comment est construite l'illustration. En fait, à chaque fois, il s'agit de reprendre tous les animaux qui vont être décrits dans la notice, et sinon de donner une représentation réaliste, du moins de reprendre des informations données dans la description. Pour le Phoca, qui est donc théoriquement un phoque, comme l'illustration ne le montre pas, on apprend dans la description que l'animal conduit ses petits au bout de 12 jours et les accompagne de cette manière. Ici, vous voyez, on a donc l'animal avec ses 2 petits. Voilà, je termine en donnant juste une autre illustration, celle du Monacus marinus de Belon. En fait, au XVIe siècle, au milieu du XVIe siècle, le savoir sur les poissons va être considérablement augmenté. Les savants donc, que sont Belon, Rondelet et Gessner vont considérablement renouveler le savoir sur les poissons, mais ça ne va pas les empêcher de reprendre aussi les monstra marina, les monstres marins qui avaient été décrits dans l'Antiquité. Et vous avez ici donc un Monacus marinus avec sa belle tête de moine et voilà.
Alors on va juste revenir très rapidement pour conclure, ça ne va pas être va être trop long sur des problèmes très concrets de transmission qui peut expliquer parfois les bizarreries qu'on trouve à la fois sur l'illustration et sur le discours qui est, dans le discours qui est tenu sur le poisson. Alors donc, comme l'ont bien montré Brigitte et Marie-Agnès, on a donc affaire à un savoir qui, au fil des siècles, donc s'est construit hein, depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge et qui a vraiment précieusement conservé avec des connaissances qui concernent tous les domaines, soit le discours zoologique qui va traiter donc de l'anatomie animale, le comportement des poissons, les modes de reproduction, les migrations, les techniques de chasse. Et vous avez vu au fil des exemples qui ont été donnés qu'il y a beaucoup de notations qui sont parfaitement justes. On a quand même des gens qui, depuis l'Antiquité comme au Moyen-Âge, ont regardé, ont observé, ont transcrit. Et la plupart des choses, même si c'est très déconcertant pour le lecteur d'aujourd'hui, parce que finalement, ça mêle des discours de niveaux différents, on l'a vu, on va trouver aussi bien dans un même paragraphe des éléments qui concernent la zoologie que des recettes de médecine, que des recettes de diététique et une interprétation allégorique. Donc c'est déconcertant, mais le fond est en réalité très vrai. Un exemple très intéressant de cet intérêt pour l'animal, Pline et ses rapportés nous indiquent qu'on connaît le comportement des dauphins en observant des dauphins dont on a coupé la queue. C'est-à-dire que, dès cette époque, dès l'Antiquité, on marque des animaux pour pouvoir observer, les repérer et suivre les migrations, dans une technique qui est finalement tout à fait moderne. En même temps, ce savoir est fragile. Et il est fragile, on l'a vu, à cause du respect qu'il va... dont il va faire preuve vis-à-vis des grandes figures de la connaissance, qu'elles soient anciennes, Aristote, Pline, plus récentes, par exemple les sources arabes qu'on est en train de redécouvrir, Avicenne, les médecins arabes, et qui apparaissent aussi bien comme des auctoritates que Pline ou Aristote. Ou récente, c'est-à-dire qu'on ne va pas non plus discuter une fois que Thomas de Quentin-Pré ou Albert Legrand et Vincent de Beauvais ont écrit, on ne va plus vraiment discuter ce qu'ils ont apporté. On l'a vu, on a juste quelqu'un qui est exceptionnel, c'est Albert Legrand, hein, qui va commencer à critiquer à partir de sa propre expérience le discours des anciens. Mais dans l'ensemble, ce qu'on constate, c'est une conservation, une transmission de toutes les informations, même si elles sont aberrantes, qui sont contenues dans les sources. Alors, voici un exemple d'aberration. C'est dans les catalogues des médiévaux des poissons, vous allez trouver le poisson austral. Et en réalité, il s'agit d'un contresens sur la constellation du poisson austral. Isidore de Séville a lu un passage donc des Géorgiques de Virgile sur où il était question de la constellation du poisson austral qui avale dans sa bouche l'eau du Verseau. Il n'a pas compris le passage, très bizarrement, parce que normalement Isidore de Séville, quand même, est un familier des textes d'astronomie. Et il a compris le poisson austral comme un véritable poisson qu'on trouve et qui, donc, se nourrit des eaux et qui apparaît quand les Pléiades se couchent. Et là, on retrouve l'information qui aurait été concernée, le lever de la constellation du poisson austral. Cette information aberrante, on la retrouve chez tous les encyclopédistes médiévaux. On a un savoir dont on l'a vu qui se construit par accumulation, avec ses qualités. C'est-à-dire que ce sont des gens qui donnent des références précises. Thomas de Quentin-Pré, Vincent de Beauvais citent chacune de leurs citations et indiquent à quel endroit ils ont trouvé leur texte. Qui se signale aussi par un dépouillement quasi exhaustif des sources. Par exemple, Vincent de Beauvais, l'œuvre de Vincent de Beauvais, c'est une compilation considérable, énorme. Ou bien par la lecture méthodique des sources. C'est Albert Legrand qui va commenter très précisément Aristote. Mais aussi, on l'a vu, ses limites. C'est-à-dire que la synthèse est difficile entre ces différentes sources. On va donc répéter des informations identiques, mais parce qu'elles proviennent de sources différentes. Et plutôt que d'en faire finalement un digeste, un compte-rendu. On va aussi, si par exemple des sources différentes traitent d'un même poisson, mais sous une appellation un tout petit peu différente. Le mot s'est déformé au fil des siècles. On va conserver les mêmes informations, et comme si finalement les encyclopédistes médiévaux n'avaient pas osé trancher, et on a l'impression qu'ils croient que c'est deux poissons, deux animaux différents. On a aussi une synthèse difficile, et on l'a vu, seul Albert le Grand le tente quand même, entre le savoir livresque et l'observation ou l'expérience personnelle. C'est-à-dire que on va bien noter des faits d'expérience personnelle, mais en même temps, on n'ose pas aller plus loin et remettre en doute les observations émises par les anciens. C'est-à-dire qu'on va procéder par accumulation, on ajoute des nouvelles connaissances, mais ça ne rend pas pour autant obsolètes les anciennes connaissances. Elles ne les effacent pas. Alors, par exemple, à propos de la plie, Vincent de Beauvais nous dit « La plie est un poisson connu et courant. » Et il précise « Chez nous, il est bicolore. Il est blanc sur un côté, noir sur l'autre. » Et avec une certaine inquiétude, il précise « À son sujet, comme au sujet de beaucoup d'autres poissons, je n'ai rien trouvé chez les auteurs cités précédemment. » Et il émet le doute, mais sans aller plus loin dans sa démarche, à moins que ceux-ci ne les désignent sous d'autres vocables que nous. Et on ne va donc finalement rien perdre, tellement on a peur de perdre une connaissance venue des anciens, et même éventuellement d'oublier un animal, et là on est dans une perspective chrétienne, que Dieu aurait créé. C'est un savoir aussi, on l'a vu, qui est très livresque, hein, et donc qui va être soumis aux aléas de la transmission. De nombreuses causes d'erreur vont pouvoir perturber la transmission d'une information. Il faut se rappeler qu'on est dans un contexte de copie manuscrite. Donc imaginez-vous recopiant Pline, recopiant Isidore de Séville, on va faire des fautes de copie, on va oublier des mots, on va changer des lettres. Donc les fautes sont très nombreuses, soit par omission, soit parce qu'on a mal lu, on a lu trop vite un mot, on l'a déformé, ou une phrase, des mots qui se ressemblent, qui vont en générer des confusions, des passages qu'on a mal coupés, et parfois on va combiner toutes ces sources d'erreurs, ce qui peut aussi donc amener à des textes un petit peu bizarres, surtout quand on les compare avec les sources. Alors, je vous ai donc choisi un petit florilège de ces bizarreries qu'on va trouver dans les textes. Et qui alors, très souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, on avait une information qui était tout à fait juste. Et c'est la transmission au fil des siècles qui entraîne un résultat aberrant dans les textes médiévaux. Alors, par exemple, Pline nous parle de la mandole, hein, qui est un poisson, donc c'est un poisson osseux, hein, d'à peu près 25 cm, et il nous dit très justement que les mandoles perdent leur couleur blanche et noircissent en été. Il enchaîne, et c'est cette phrase-là qui est importante. Le ficis, attention, il s'agit d'un autre poisson, change aussi de couleur, blanc tout le reste de l'année, il est bégaré au printemps. Donc le ficus, c'est un espèce de larve qui construit un nid, hein, pour les œufs qu'il pond. Et il précise très justement à propos du ficus, c'est le seul qui se construit un nid d'algues et qui pond dans un nid. Puis, voilà les fautes de copie, un exemple moderne. Et Vincent de Beauvais, quand il va recopier la citation de Pline, va oublier la phrase concernant sur le ficus. Et ça donne... Il s'agit donc du coup de la mandole. La mandole perd sa couleur blanche en hiver et il noircit en été. Il est le seul de tous les poissons qui se construisent un nid d'algues et qui dépose ses œufs dans un nid. On va recopier cette phrase-là à partir de ce moment-là. L'illustrateur en rajoute. Vous voyez que Vincent de Beauvais, comme Pline, avait parlé d'un nid d'algues. L'illustrateur, avec beaucoup d'imagination, nous fait un arbre et un poisson qui grimpe dans les arbres. Et un nid qui ressemble beaucoup à celui des oiseaux. Autre exemple qui va entraîner des informations aberrantes, les erreurs par mélecture. Pline parle des oursins et il nous dit que les oursins ont des piquants à la place des pieds. Tous ne sont pas de la couleur verte. Et il précise, Kirka Toronam, près de Toron, il y en a qui sont blancs. Mais le T, quand vous l'écrivez, dans la, c'est très près du C. Toron n'est pas forcément une ville connue donc de nos copistes du nord de la France. Et donc ça devient, ils vont lire non pas Kirka Toronam, mais Kirka Coronam, autour de la couronne. Et voilà nos oursins pourvus d'une couronne, et ils sont blancs autour de la couronne. Donc autour de la couronne, les oursins sont blancs. Et on va conserver cette indication-là dans tous les autres textes. Alors en même temps avec une représentation de l'oursin qui est aussi un petit peu étonnante et qui emprunte à d'autres confusions, en particulier le fait qu'il est noté après qu'il ressemble au scorpion. Donc là on va hériter. Autre erreur, encore par mauvaise lecture et là par paronymie. Alors on a évoqué les cinq hein, qui sont donc des sortes de petits crocodiles du Nil. Le problème, c'est que le mot skinti ou skinki est très proche du mot skiouri. Et le mot skiouri en latin désigne l'écureuil. Donc, Pline nous dit à propos de l'écureuil, les écureuils annoncent les tempêtes et bouchent leur logis du côté où le vent soufflera, mais dégagent le côté opposé. On fait le relevé, on confond skinki et skiouri, et le 5 du Nil récupère une queue en panache, au départ celle de l'écureuil. Les cinq sont des animaux aquatiques qui nagent dans le Nil et sont semblables par leurs aspects aux crocodiles. On recite donc le passage de Pline. Ils annoncent également les tempêtes quand, entrant dans leur logis, ils dégagent l'entrée du côté opposé à celui du vent qui doit souffler et bouchent avec le panache de leur queue l'autre ouverture qui fait face au vent. Ce qui est très étonnant, c'est que vous remarquez que Pline n'avait pas parlé, et là c'est bizarre, c'est une bizarrerie, on a eu du mal à s'expliquer. Il doit falloir sans doute avoir, on doit avoir un autre intermédiaire hein, qui a repris le texte de Pline à propos de l'écureuil et qui a dû rajouter le détail de la queue en panache, et Albert le Grand a rajouté la queue en panache. L'oursin et le rémora, là encore, erreur de lecture par paronymie. En latin classique, donc. Brigitte Gauvin, vous l'avez dit, le mot latin pour le rémora, c'est l'ekeneis, qu'on peut trouver sous différentes orthographes, ekeneis et ténaïs. L'oursin, c'est très proche, ekinus, eskinus ou ekinus. Et on a encore aussi le hérisson, hérissus. Pline ne confond absolument pas les deux animaux. Il parle bien du rémora et il parle aussi de l'oursin. Mais ce sont deux animaux qui ont un trait commun chez Pline. Ils sont l'un et l'autre capables de résister à la violence des tempêtes, et si bien que leur comportement permet aux marins de deviner une tempête qui va arriver. L'oursin va s'accrocher à une pierre pour se stabiliser, et le rémora va s'accrocher à un bateau. Il va donc, lui, immobiliser le bateau. Les encyclopédistes médiévaux, eux, vont confondre ces noms dont la graphie est très proche, et ils vont complètement imbriquer les observations qu'ils ont lues chez Pline sur les kénéis et les kinous qu'ils vont confondre. Et voici chez Albert le Grand, quand les marins voient les kinous, il s'agissait de l'oursin chez Pline, tirer un caillou, eux-mêmes à leur tour jettent l'ancre pour immobiliser leur bateau. Il arrive que les kinous, et là on cite Pline, mais Pline parlait du rémora, arrête un navire. En effet, en s'attachant sous la coque, l'esquinous arrête un navire de 200 pieds, voire davantage. Et on n'arrive pas très bien à savoir si, dans l'esprit d'Albert le Grand, il s'agissait de deux animaux différents ou du même animal. Alors, ce qui est remarquable, c'est que quand même, au niveau donc, de l'illustrateur de l'Ortus, il a lui-même un doute, hein, puisque si vous regardez bien, dans le texte, il parle de c'est l'Éthénaïs ou l'équini, c'est-à-dire il hésite, mais il met « ou ». Donc le « ou » semble bien, pour le texte, ça semble bien être le même animal. Cependant, l'illustrateur a bien représenté un animal qui ressemble un peu à un scorpion, hein, vous voyez la queue aussi qui se relève, c'est notre oursin qu'on a vu sur l'image différente, qui s'accroche à un caillou, et un animal différent pour le rémora, qui, alors, là encore, il doit avoir des doutes parce que il en met quand même plusieurs hein, pour arrêter le navire. Mais donc, c'est tout ce type d'information qui est véhiculé. Et il faut bien voir en même temps que le lecteur voit à la fois l'image, le texte, et que c'est tout cet ensemble qu'il récupère. Autre faute qui explique encore les bizarreries qu'on peut trouver dans nos textes, mais des erreurs carrément par contresens. Et il ne faut pas encore oublier que, attention, le latin n'est plus la langue quand même maternelle de nos auteurs et qu'ils disposent de copies qui sont fautives. Par exemple, Pline nous dit que on rapporta à Rome les os belluae du monstre, cui auquel dicebatur dit-on, fuisse exposita Andromeda, fut exposé Andromède. Et exposita, c'est fut exposé. Erreur sur le cui. Les lecteurs médiévaux ne comprennent pas la phrase de Pline, mais qui leur est apparue déformée, et ils vont créer un monstre. Le monstre qui est appelé Exposita. On va citer Pline quand même. Le monstre qui, selon Pline, est appelé Exposita, se trouve dans la mer qui baigne Jopé, c'est Jaffa, en Judée, et c'est évidemment le monstre auquel a échappé Andromède. Autre erreur, alors là, qui nous réjouit, c'est entre toutes, hein. C'est un malheureux zoologue donc, qui a écrit avant Pline et qui a été cité par Pline. Ce malheureux zoologue s'appelait Trebius Niger. Les lecteurs médiévaux n'ont pas compris le nom, que s'il s'agissait d'un nom de personne, qu'il s'agissait du zoologue auquel se référait Pline. Et donc, ils ont compris ce nom comme le nom d'un poisson, le Trebius, qui était noir, forcément, Niger. Et donc, on va retrouver dans tous les catalogues médiévaux un poisson, le Trebius Niger, mais qui va récupérer les caractéristiques de tous les poissons pour lesquels Pline s'est référé à Trebius Niger. C'est-à-dire que vous voyez le poisson que ça va donner, c'est un poisson noir qui ne fait qu'un pied de long mais 5 doigts d'épaisseur. Là, c'est quand Pline a cité Trebius Niger à propos du Myrex. Il raconte qu'il a le pouvoir suivant si on approche un morceau de ce poisson conservé dans le sel de l'or qui est tombé dans les puits les plus profonds, il l'attire, le fait flotter, c'est toujours pareil. On va retrouver notre mandole. En hiver, il blanchit, en été, il noircit. On va retrouver notre ficus. On avait vu la confusion. De tous les poissons, il est le seul à fabriquer un nid avec des algues et à pondre des œufs dans ce nid. Et enfin, comme Trebius Niger avait parlé de l'espadon, on le retrouve avec ce que disait Pline de l'espadon. Il y a dans l'océan une espèce de trébius qui perfore les navires de son rostre dur. Et le plus intéressant, c'est que au XVIe siècle, Olaus Magnus connaît donc dans ses pays du Nord un poisson noir et, illumination, il va se dire « Mais voilà, j'ai le trébius niger d'Albert le Grand ». Et donc, il va nous dire que dans le je ne sais plus quel fleuve donc des pays nordiques, on trouve régulièrement des Trebius Niger. C'est une belle fin, je trouve, parce que après tout, on va finalement, c'est une belle postérité pour Trebius Niger. Autre bizarrerie, le goût des citations. On va aller citer des textes anciens, mais on va les couper bizarrement. Et ça nous donne donc une notice pour le moins déconcertante. On cite Aristote, et effectivement, tout vient d'Aristote. Mais Aristote qui a été coupé, et c'est vraiment le copier-coller, et le copier-coller malheureux. Le poulpe a pour les dés des pieds munis de ventouses. Grâce à elle, il étreint tout ce qui l'approche. Et d'ailleurs, pourquoi ? L'animal ayant du sang a un cerveau. Les organes digestifs, c'est chez la sèche et la pieuvre, sont tout à fait semblables par leur configuration et au toucher. Il rassemble tout ce qu'il mange dans les cavités où il demeure, et quand il a mangé tout ce qui lui convient, il rejette les restes des coquilles et même les carapaces des crabes, il change de couleur et modifie son apparence. Le discours d'Aristote, donc il s'agit de séries de citations d'Aristote, mais qui étaient tout à fait, si vous regardez le texte d'Aristote, tout à fait sensées. D'une part, il parlait de la sèche et évoquer donc les moyens de défense de la sèche à la différence du poulpe, et surtout à propos des animaux sanguins, donc dans un tout autre passage, il expliquait que les animaux sanguins avaient un cerveau, tandis qu'aucun autre, donc pour ainsi dire, n'en a, à moins que ce ne soit un organe analogue, comme chez le poulpe. Donc le discours d'Aristote était tout à fait vrai, et le mixage, donc au niveau, dans les encyclopédies médiévales, arrive à une notice qui laisse un peu perplexe le lecteur d'aujourd'hui. Alors, il faut bien voir, et à la décharge de nos encyclopédistes médiévaux, c'est qu'ils ont redécouvert l'œuvre zoologique d'Aristote par la traduction de Michel Scott, qui était elle-même traduite de l'arabe, et version arabe traduite du grec. Or, si tout ce qui concernait, par exemple, le savoir général sur les poissons, sur leur mode de reproduction, leur mode de locomotion, leur migration, a finalement été bien restitué. En revanche, tout ce qui, chez Aristote, consistait en des exemples très précis, tirés d'animaux qu'il avait observés et qui venaient étayer son discours général, là, ça a été un peu massacré. Parce que les noms d'animaux ont été le plus souvent translittérés. C'est-à-dire qu'on a le calque, on a eu en arabe le calque du mot grec, en latin, le calque du mot arabe qui avait calqué le mot grec. Et les auteurs médiévaux sont absolument et réellement incapables d'identifier sous le nom qui leur arrive l'animal qui avait été à l'origine observé par Aristote. Et on en a fait l'expérience, c'est-à-dire que nous-mêmes, quand on a lu au départ le texte, on avait beau savoir que ça venait d'Aristote, on n'arrivait pas à faire le rapprochement entre les animaux d'Aristote et les informations qu'on lisait dans le texte. C'est quand on a pu vraiment reconstituer tous les intermédiaires et en particulier avoir le texte de Michel Scott que là, on a pu remonter aux bonnes notices d'Aristote. Alors, par exemple, on a parlé, Marie-Agnès a évoqué tout à l'heure, l'ostre du thon, qui est un petit parasite du thon. Alors, je me rappelle plus.
Oistros
en grec. Chez Michel Scott, avec l'intermédiaire, par l'intermédiaire arabe, on trouve le mot ostaros. Le mot ostaros de Michel Scott, par ses lecteurs, a été recopié astarios ou astaros. Et astaros a été rapproché du mot latin asta qui désigne la lance. Or, il existe un nom d'animal en latin, le gladius, qui désigne l'espadon. Et gladius signifie le glaive. Et donc, astaros, asta la lance, on a aussi gladius, le glaive, l'espadon, et on fait le passage. Et donc, l'astaros a été compris comme un synonyme de gladius, et on a compris que astaros pouvait désigner l'espadon. Et voilà comment une information qui, chez Aristote, concernait l'ostre du thon, va se retrouver mixé avec un chapitre concernant le gladius, l'espadon, et inséré dans une notice qui concerne l'espadon. Autre exemple, là, d'horreur combinée. Oui, on va arrêter. Le dernier exemple, Pline va parler du glanis. Marie-Agnès, hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure et vous avez signalé que le texte était un petit peu bizarre et compliqué. Pline nous dit, très justement, le silure glan, le glanis, mord caotius, assez précautionneusement, les hameçons à contresens. On va comprendre le caotius, c'est caotius hein, qui est en, qui s'appelle le glanis. Et on va comprendre caotius comme un nom de poisson. Le caotius qui s'appelle le glanis mord à contresens. Le problème, c'est qu'on va trouver la forme caotius est proche de glaucius, qui est elle-même très proche d'un autre nom de poisson de chez Pline, le glaucus, le squale. Et on va trouver le glaucus, qui s'appelle aussi le glanis, le squale, mais qui n'avait rien à voir, mord à contresens les hameçons. Et dernière étape, Apiarius se dit « ça ne va pas », Le glanis et le glaucus, ça n'est pas la même chose, il y a une erreur, et malencontreusement, il supprime la bonne partie de la phrase, il supprime le glanis, et ça devient le Glaucus, mort à contresens, les hameçons. Alors voilà, c'était juste un petit échantillon pour vous montrer comment à la fois pouvait-on récupérer, en fin de compte, une collection de savoirs qui était très hétérogène et très bizarre, mais finalement avec des bizarreries qui pouvaient très souvent s'expliquer par de simples erreurs de transmission de texte.
Écoute, je ne ferai pas de conclusion, parce que nous avons déjà très largement abusé de votre patience. Nous espérons juste que nous avons pu vous montrer comment le discours des anciens sur les poissons était très riche et comment, malgré des bizarreries quelquefois, il a en fait nourri toute l'ichtyologie jusqu'au XVIe et même au-delà. Merci infiniment.